l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
L'invité de ce jour est venu présenter un livre, Coursant en Occitanie. Il s'agit de Jean-Pierre Herail. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes premier adjoint à la mairie de Coursant. Vous êtes élu depuis pas mal d'années d'ailleurs.
C'est le second mandat, mais c'est le premier mandat où je suis premier adjoint.
Oui. Et alors là, vous avez, ça a un rapport quand même avec vos responsabilités, vous avez publié un livre, un petit livre avec beaucoup d'illustrations sur, intitulé « Coursant en Occitanie », c'est une sorte petit livre d'histoire, de présentation de la commune. C'est quoi exactement, Jean-Pierre?
Oui, c'est un melting pot de l'histoire ancienne, des bâtiments historiques, un peu de l'histoire de la naissance de Coursant, l'histoire du fleuve, l'histoire de la viticulture, voilà, et ensuite un petit peu du Coursant moderne, les nouveaux lieux où on peut se rencontrer, comme l'étang Salin, Sainte-Marie, etc. Et puis j'ai terminé un peu par les ambassades, c'est-à-dire les domaines comme l'asinerie, comme la vinaigrerie, comme le vin bio de Récalel-Lautrec, le caveau de la Clape, etc.
Ceux voilà, qui c'est... portent haut les couleurs de Coursant.
Voilà, c'est un livre Coursano-Coursané.
Alors, Jean-Pierre Herail, on va bien entendu donner l'eau à la bouche aux auditeurs pour le lire, mais en deux mots, où est-ce qu'on le trouve déjà ce livre?
Alors, on le trouve pour l'instant à la maison de l'information et du tourisme à Coursant et au caveau de la Clape à Coursant.
Voilà. Et le livre lui-même, donc, en deux mots, dans quelles circonstances vous l'avez écrit, Jean-Pierre Herail?
Alors, je l'ai écrit un petit peu par hasard et par besoin, puisque j'avais commencé à faire quelques chapitres lors des précédentes journées du patrimoine, où on présentait les monuments historiques soit en calèche, soit en petit train. Et puis je me suis pris un peu au jeu de la découverte, et je me suis rendu compte que les Coursanais ne connaissaient pas trop leur histoire, les nouveaux Coursanais pas du tout, parce que tous les passeurs d'histoire anciens, leurs livres étaient stockés dans des bibliothèques ou chez les particuliers. Ils n'étaient plus en vente, et donc c'était difficile d'avoir...
Il y avait un vrai besoin pour un ouvrage comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est une mise à jour, et j'invente rien, hein, parce que les passeurs d'histoire comme Isabelle Zamfont ou Anne-Marie Galmar qui ont fait beaucoup de travail avant, mais c'était des livres qui était oublié chez le particulier. Mmh. Quoi. C'était, donc je me suis dit, on va le remettre à jour. Et puis Coursant aussi a évolué.
Bien
donc,
entendu. Oui.
Donc il fallait un petit peu.
Oui, voilà, parce que Coursant, combien d'habitants aujourd'hui?
On tourne autour, pas tout à fait 6 000.
Oui, on sait que c'est la grosse commune
chez ville de Canton.
Alors Coursant, à l'époque romaine, Narbonnaise, n'existait pas.
Non. Coursant n'existait pas, alors si vous voulez, il y avait de l'eau, la Clape était une île, et donc toutes les eaux d'inondation ou autres se déversaient dans ce fameux lac qu'on appelait Rébrésus, parce que ça veut dire rouge, parce que les boues étaient rouges.
Les alluvions étaient rouges.
Et c'est à partir de autour de ce lac que sont construites les premières habitations.
Oui, mais il y avait déjà, on peut imaginer, alors on sait que le cours principal de l'Aude à l'époque, à Taxe, passait à Narbonne, mais on peut imaginer qu'il y avait quand même un bras qui déjà.
Alors il y avait deux bras en fait. Dans l'Aude, il y avait un bras qui passait pas à Narbonne et qui se jetait dans l'étang de Sigean, et un bras qui passait par Coursant ou aux alentours, et qui se jetait dans l'étang de Vendres. Voilà. Mmh. Et les Romains, eux, pour avoir un peu plus d'eau sur Narbonne, avaient fait un barrage très important à Salelles pour dévier toute l'eau vers Narbonne, vers le cours Mirabeau, puisque c'était par là que l'eau passait. Et voilà. Et c'est lors d'une grosse inondation que le barrage de Salelles a lâché, dont l'eau a repris son cours, dans le sens de la pente, donc est traversé Cuxac et Coursant. Et comme Narbonne perdait petit à petit sa fonction de port, le bras de vers Narbonne n'a plus été réactivé.
Voilà. Et ça, Jean-Pierre Herail, il faut le situer, c'est les années 1320, 14e siècle.
À peu près dans les années, oui.
Depuis ce moment-là, le cours principal de l'Aude, il passe à Coursant.
À Coursant, voilà.
Avec les avantages et les inconvénients.
Voilà. Les avantages l'été, les inconvénients un peu l'hiver.
Alors, les inconvénients, c'est des grandes inondations.
C'est des grandes inondations. Il y a eu de grosses inondations. La plus grosse, c'était... Bon, tout le monde l'a vécu, malheureusement, dans l'autre. C'était en 1999, la dernière grosse inondation où il y a eu des morts. Et en 2018, il n'y en a pas eu. C'était plutôt dans le Carcassonnais, mais il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Mais il y a dans l'histoire, alors l'histoire de France, à l'époque où il y avait encore des rois, un épisode qui fait que à un moment on a ressenti vraiment le besoin de construire un vrai pont qu'il n'y avait pas.
Oui, c'était, mais à un moment donné il y a eu une grosse inondation quand le...
À l'époque de Louis XIII, je crois.
Voilà, Louis XIII, à travers ses coursins, avait toute sa cour, enfin, la reine, etc. Et donc eux, ils ont été sauvés in extremis, mais toutes ces troupes, ces chevaux, tout ça ont été inondés. Et donc, ils ont décidé, enfin, quelques années plus tard, Richelieu, qui repassait par Coursin et qui a eu un peu le même épisode, a décidé de construire un pont.
Or, Richelieu, déjà, c'était le premier ministre de l'époque.
Oui, c'était un peu... Cas,
voilà, les gens qui avaient le pouvoir. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée de construire un pont, voilà. Celui qui existe aujourd'hui.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est en 1642 que, donc, Richelieu a traversé Coursin, mais c'est que 43 ans plus tard, que le pont a été construit.
Oui, bon, déjà à l'époque, aujourd'hui, on ne fait pas forcément mieux. Il y a qu'à voir la ligne TGV, par
exemple. TGV, la déviation de Narbonne qui a duré 42 ans aussi.
Et celle de Coursin dont on a beaucoup parlé et qui ne s'est jamais faite.
Et qu'on attend avec impatience, mais qui ne s'est jamais faite.
Quelques exemples. Alors, la ville de Coursin, la commune de Coursin, par exemple, dans l'histoire récente, on sait qu'elle a souvent été gérée par le Parti communiste, le PCF, le Parti communiste français. C'est une ville qui très vite aussi a été marquée à gauche.
Très,
dans l'histoire moderne.
Voilà, tout à fait, c'est à gauche. Pratiquement, Coursin a toujours été à gauche.
C'est le syndicalisme viticole.
Juste pendant la guerre, il y a eu pendant quelques mois...
Oui, mais c'était spécial.
Mais c'était spécial, ouais. C'était sous l'époque de Vichy, donc c'était très spécial.
Mais ça veut dire que c'est le syndicalisme viticole qui était fort.
Je pense que le syndicalisme viticole était très fort. Ça, c'était dans les années avant 1950, à peu près. Et après, il y avait Coursin... Presque 80% de Coursanais travaillaient à SNCF. Et donc, on sait quand même la tendance...
Oui, la CGT étant bien implantée.
Voilà, la tendance syndicale voilà, donc c'est... Je pense que c'est un peu...
Ça peut c'est lié, quoi. Ça. Oui, c'est lié, ça, quoi. Ça peut c'est s'expliquer lié, de cette façon-là.
Ça, c'est lié.
Et alors, la ville de Coursin, donc, la commune de Coursin, connaît une grosse augmentation de population dans les années 1960-70. Oui. Alors, toujours du même côté de la route, de la nationale.
Oui, parce que... Alors, donc, du côté...
Du côté mer,
alors, disons, en partant de Narbonne vers Béziers, côté droit. Mmh. Voilà, parce que souvent, c'était... les gens avaient beaucoup de jardins, de terrains vagues, etc. Et ça a servi de terrain à bâtir. Et donc, au fur et à mesure, sur les jardins, se sont construits des villas, se sont construits des petits lotissements. Et puis, c'était beaucoup plus commode que de l'autre côté, où c'était beaucoup plus inondable. Et puis, il y avait la SNCF, il fallait traverser le pont. C'était moins commode.
Quoi. Voilà, sur le plan urbanistique, ouais. Ça s'imposait logiquement. Ouais.
C'était beaucoup plus facile. C'était plus facile de ce côté-là que...
Voilà. Et aujourd'hui encore, par exemple, c'est là que c'est... Que l'étang Salin a été construit, je ne sais pas si
aménagé,
c'est le mot qui
aménagé,
aménagé
oui.
par la précédente municipalité. Voilà. C'est-à-dire le côté agréable, attractif.
Coursin n'avait pratiquement pas d'espace vert propre, quoi. Voilà, il n'y avait pas de jardin public, il n'y avait rien. Donc ils ont fait cette zone qui est très agréable, avec un lac artificiel, bien arboré. Au départ, ça a été un peu à l'état un peu sauvage, il y avait des arbres un peu partout, et on a réussi à faire un parcours santé, maintenant, avec des agrès, avec des bancs, des tables de camping, donc, et c'est très très fréquenté.
Voilà, c'est un peu l'espace vert de...
C'est l'espace vert de course.
Du course
c'est un des poumons de course. Il y a un second poumon qui est route de la mer, route de salle, qui s'appelle l'espace Sainte-Marie, où il y a la salle polyvalente, etc., qui est aussi un joli espace vert qui a été aménagé aussi, qui devait être le futur terrain de camping, quand le terrain de camping de la gare a fermé. Et puis après, ça, passait, ça ne s'est pas fait à cause du pépéri, des problèmes des inondations, etc. Donc c'est devenu un très joli espace vert.
Voilà. Et si on veut en savoir plus sur l'histoire de Coursan, eh bien Jean-Pierre Héraille, on vous recommande la lecture de ce livre, Coursan en Occitanie, autour du patrimoine. Rappelons-le, alors c'est vous qui l'avez drivé en quelque sorte.
Un petit peu, écrit. Oui.
Et rappelez-nous justement, encore une fois, où est-ce qu'on va le trouver pour inciter les gens, coursonnés ou pas d'ailleurs, s'ils s'intéressent à la commune.
Oui, je pense que c'est intéressant pour les coursonnés, mais aussi
pour d'autres aussi.
Tous ceux qui sont tout autour. C'est intéressant pour les touristes qui le traversent. Donc, il est en vente à la Maison de l'Information et du Tourisme, au centre-ville, et au caveau de la Clap.
Voilà. Merci en tout cas, Jean-Pierre.
C'est moi qui vous remercie.
D'être venu nous le présenter pour les auditeurs de Grand Sud FM.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.